ゲイムラディオ。
Bonjour à tous et bienvenue sur Game Radio dans ce nouvel épisode d'Onde Ludique. C'est Calamne et je suis toujours avec ma collaboratrice Kalia. Salut
oui.
Kalia.
Bonjour à tous, j'espère que vous avez apprécié cette petite ouverture, tout à fait dans le thème.
Voilà, vous avez vu quand même la grande classe. On commence avec le thème de Halo 3.
Qui s'appelle One Final Effort, avec l'accent.
Voilà, c'est la version courte qu'on a choisie. Je vous rappelle qu'évidemment l'émission Onde Ludique aujourd'hui est consacrée au thème cœur. C'est pour ça qu'on a choisi cette intro, parce que vous avez vu ce morceau. Oui.
C'est marrant parce que justement c'est une musique qui n'a pas beaucoup de cœur, justement, comme je te le faisais remarquer. C'est là un petit peu au début, mais bon, on s'est dit c'est vachement classe, ça fait une bonne intro, on la garde.
Effectivement, et de toute façon, quand on voilà, aujourd'hui Halo c'est une série mythique, alors ça va parler évidemment forcément aux possesseurs de Xbox et sûrement un peu aux autres.
Quand
tout
même.
Le monde a quasiment essayé aujourd'hui, a entendu parler de Halo évidemment. Mais ce thème, il est vraiment 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 prenant. Il est présent, il est très présent dans le jeu, évidemment. Alors, pourquoi moi, c'est moi hein, qui ai choisi ce thème et on a décidé de le passer en début d'émission parce que c'est le thème d'ouverture de.
Oui, ça évoque vraiment ouverture, début de jeu à beaucoup de personnes, je pense. Quand on allume le jeu, c'est vraiment ce thème-là. Et ça, je pense que ça parle effectivement à beaucoup de gens, ça leur rappelle de bons souvenirs. Tu peux nous rappeler le compositeur ?
C'est Marty O'Donnell, le compositeur. Et ce morceau, alors c'est effectivement un morceau d'ouverture, c'est le morceau qui avait été pris pour le trailer, mais c'est aussi le morceau qu'on retrouve dans le jeu, dans beaucoup beaucoup de passages, et qui rythme l'action. Donc on l'a constamment avec soi, et il est vraiment super. Ça, en fait, ce thème, il rappelle surtout que de bons souvenirs aux joueurs.
Je pense que c'est ça, oui. Ça parle vraiment à tout le monde, même moi qui n'ai pas Xbox, j'ai bien sûr essayé Halo un peu comme tout le monde, et ce thème effectivement c'est juste une tuerie. Je pense que tous ceux qui l'ont entendu une fois s'en rappellent avec émotion, et ils se rappellent du menu de Halo qui a ce thème en version plus douce, avec plus de cœur d'ailleurs si j'ai bon souvenir.
Voilà, alors effectivement, c'est pas le morceau qui a le plus de cœur présent, mais c'est un moment de musique et de jeux vidéo en fait.
Clairement.
C'est pour ça qu'on se devait de le passer. Alors, à savoir que sur ce morceau, il a été intégré à. Alors, il a été rajouté pour le jeu Guitar Hero 3.
Oui, c'est un 360. Remix. Excellent.
Voilà.
Remix.
Et donc, on pouvait effectivement, avec sa petite guitare en plastique, pouvoir se la donner sur le thème de Halo.
C'était immense parce qu'on pouvait, au début de la musique, donc il y a le bruit de la Banshee qui tombe dans le thème. Et avec la guitare, on pouvait, en faisant une note maintenue, on pouvait faire le bruit de la Banshee. C'est très amusant, c'était mon moment préféré. J'ai joué ce morceau un nombre incroyable de fois avec mes frères.
Ouais, moi aussi, évidemment, parce que c'est un. En même temps, voilà, il est. Il est épique ce morceau, mais
comme beaucoup des thèmes qui sont passés dans cette émission, hein. Cœur,
de toute façon,
voilà.
Vous allez voir, ça va vraiment utiliser beaucoup de fois le terme épique, hein, à chaque fois. Donc voilà pour ce premier morceau que j'aime beaucoup et que je prends toujours plaisir à réécouter. J'espère que vous aussi vous aurez pris plaisir à écouter ce morceau, tout comme vous allez prendre plaisir à écouter les suivants. Le deuxième morceau, c'est un choix. C'est ton choix.
Oui. Donc le deuxième morceau, on attaque vraiment les chœurs proprement dit, puisque j'ai tenté justement de prendre vraiment des morceaux où les chœurs étaient centraux, parce que souvent dans les jeux vidéo, on a les chœurs sont très présents. C'est pour ça qu'on avait des tonnes de choix et qu'on a vraiment été draconiens. On a éliminé beaucoup de choses qu'on aurait aimé mettre. C'est dommage. Pour nous garder en fait des morceaux plutôt où les chœurs étaient au centre de la musique, parce que souvent ils sont là comme accompagnement pour mettre de l'ambiance dans n'importe quel jeu d'horreur par exemple, vous avez beaucoup de chœurs dans les fonds. Donc personnellement j'ai plutôt essayé de prendre vraiment des musiques qui donnaient la part belle au chœur, et c'est tout à fait le cas de la musique qu'on va écouter ensuite. Donc il s'agit d'encore un thème d'ouverture d'ailleurs, c'est le thème d'ouverture de Suikoden 3 qui s'appelle Exceeding Love, que je ne peux que vous recommander de filer voir l'opening du jeu avec la vidéo. C'est une somptueuse séquence animée donc sur cette musique. Donc régalez-vous, on le passe tout de suite.
Oh,
C'est donc Exceeding Love de Michiru Yamane, donc compositrice de Suikoden 3, qui a dû reprendre avec cet épisode, elle a dû prendre la relève de la grande Miki Higashino qui composait jusque-là les Suikoden, et comme vous pouvez l'entendre, elle n'a pas déçu, vraiment, c'est une intro extrêmement originale pour un jeu vidéo, et donc là beaucoup plus lourde effectivement sur les cœurs. Qu'est-ce qu'on a pensé, Calam? Personnellement, c'est un de mes morceaux vraiment fétiches, un des plus morceaux de musique vidéo qui m'ait jamais été donné d'entendre. T'en penses quoi, toi?
Moi, ça me plaît vraiment beaucoup, évidemment. C'est super joli, c'est super agréable à écouter, c'est quand même assez rythmé au final. Et surtout, j'ai regardé évidemment l'intro.
Oui, voilà.
Et elle donne vraiment envie de faire le jeu, en fait.
Exactement. Donc, je rappelle que ce morceau est fait pour être écouté sur l'intro. Il a été créé pour l'intro. Sublime, donc, intro en animation. Vraiment magnifique, hein. À part deux, trois phrases en mauvais anglais qui viennent un peu la gâcher, qui me font toujours rigoler. Mais sinon, donc, une intro que je ne peux pas en plus regarder à chaque fois que j'écoute la musique.
Ouais, j'ai pas fait attention, moi, aux termes en anglais parce que j'étais vraiment absorbé par le. Par l'intro, la qualité d'animation est...
Ah oui, c'est magnifique.
Et vraiment, vraiment, enfin, c'est vraiment très très bonne, très très bonne qualité. Ça donne envie de, ça donne envie de regarder, de connaître la suite, de savoir ce qui se passe.
Les Suikoden ont une histoire d'excellente intro, mais le 3 est reconnu comme ayant la meilleure intro. Mais c'est pas le jeu préféré des fans en général. Il est crédité au moins pour l'intro. Et les Suikoden, donc c'est des jeux qui sont plutôt centrés sur les personnages, hein, puisque le grand motif du jeu, c'est que vous avez 108 personnages, donc les 108 étoiles du destin. Donc on a vu là, limite la majorité dans l'intro, parce qu'on a énormément de personnages, donc c'est pour vous donner envie, pour vous dire, voilà, vous allez pouvoir jouer avec tous ces personnages-là, qui sont alors, évidemment plus ou moins développés, mais qui sont généralement très, très intéressants, et les Suikoden sont vraiment au-dessus de la moyenne.
Les Suikoden, en général, sont quand même des RPG de bonne qualité,
extrêmement
mais qui sont finalement assez difficiles à appréhender, je trouve, pour nous, pour le public occidental. C'est pas du RPG... Du RPG facile ou
pas du tout.
Voilà, moi je dirais que un Final Fantasy ou des choses comme ça, c'est du RPG facile. À la limite du Dragon Quest, c'est assez facile également, même si ça commence à devenir assez austère pour nous parce que old school sur les Dragon Quest. Mais voilà, Suikoden, c'est vraiment plus difficile à jouer. Il faut quand même pouvoir s'y mettre. Mais par contre, une fois qu'on s'y est mis et si on accroche un peu à l'univers, parce que vous avez entendu sur cette intro. Ce sont des cœurs qui sont assez particuliers, qui sont très, là c'est du jeu japonais, mais on a ces cœurs très aigus qui sont quand même assez particuliers, des cœurs qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre chez nous,
hein,
qui sont vraiment très asiatiques, enfin très imprégnés de cette empreinte asiatique.
De toute façon, enfin comme tu le dis clairement, Suikoden c'est une série vraiment pour joueurs de RPG passionnés. De toute façon, elle est inconnue en dehors de cette niche. Alors Final Fantasy c'est un RPG beaucoup plus grand public, effectivement. Suikoden faut beaucoup plus s'accrocher. Dragon Quest après c'est très grand public au Japon, chez nous beaucoup moins évidemment parce qu'ils sont pas trop sortis.
Un petit point aussi sur le manga Suikoden, en tout cas les premiers volumes que j'avais lus.
Lequel? Il y en a eu pour tous, donc il faut que
je dise. Oui, mais je me rappelle plus lequel c'était.
Sans doute le 2 si t'as bien aimé. Le 2 vraiment c'est le Suikoden supérieur pour la grande majorité des joueurs, et le manga effectivement est très bon.
C'est le 2 il me semble.
Le manga est une très bonne adaptation qui respecte particulièrement...
J'avais pas eu l'occasion de lire tous les volumes, mais les premiers que j'avais lus étaient très très bons.
C'est très beau aussi. Bref, voilà, c'est une petite histoire donc d'une série trop méconnue. Donc je pense qu'on peut passer à la suite.
Oui.
Et la suite, c'est encore un de mes choix d'ailleurs, parce que cette fois-ci on n'alterne pas. On a préféré vous faire des musiques qui contrastaient plus.
Oui, donc encore un de tes choix, donc tu vas nous expliquer ton choix.
Oui, donc c'est un choix beaucoup plus mainstream que Suikoden, que vous allez sans doute tous connaître, hein, et vous allez être ravis, je pense. Il s'agit du thème de God of War. La version qui est présentée dans le jeu numéro 2. Donc qu'on écoute tout de suite. Ça va être épique.
We'll be right back.
Et voilà, une petite dose d'Epic, ça fait toujours du bien. Là, pour le coup, Epic, oui, bon, je ne comprends pas très bien quel adjectif pourrait mieux décrire ce morceau.
Grosse dose même, hein.
Et aussi rage hein, dans les mots qui peuvent décrire ce morceau. Ah, d'abord, bien sûr, je rappelle le compositeur. Les compositeurs, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de Chris Velasco, Gérard Marino, Mike Regan et Ron Fish. Mais donc, oui, un morceau tout à fait colérique, comme le jeu qui l'illustre. Je
Et
sais que.
en fait, c'est ce que j'étais en train de me dire pendant qu'on écoutait le morceau, et après j'ai fait un peu plus attention, mais je me disais, il manque un truc. C'est les bruits de chaînes, de cris,
Splash
de
de sang.
déchirures et de, voilà, et de sang. Est-ce que c'est ce que j'allais dire? Et finalement, en écoutant mieux, dans la fin du morceau, on entend alors je sais pas, ça doit être des morceaux de violon, il me semble, mais qui rappellent, alors je sais pas si c'est vraiment du violon ou autre chose, mais qui rappellent le choc de lames, en fait, deux lames métalliques qui s'entrechoquent. On entend ça sur la fin du morceau, mais c'est vrai que ça porte bien parce que. On avait choisi un titre Xbox tout à l'heure avec Halo 3. Là, on passe sur God of War, donc un titre exclusif à PlayStation. Voilà. Ouais, voilà, on pouvait pas non plus ne pas mettre ce morceau parce que tu disais tout à l'heure que c'était un de tes choix, mais ça aurait pas été un de tes choix, ça aurait été un des miens obligatoirement.
Effectivement, je suis en train de réécouter la fin et j'avais jamais écouté plus que ça, mais à la fin, on a effectivement des bruits de lames qui s'entrechoquent et on a aussi vers la fin, quand la musique change, enfin la dernière partie du morceau, on a donc des chœurs avec des bruits de chaînes qu'on agite, hein, des espèces de maracas. Donc on a vraiment les leitmotifs effectivement du jeu qui sont intégrés à la musique de façon à la fois discrète et très présente. J'avais jamais fait plus attention que ça. À propos des paroles, tu sais que c'est du vrai grec. Vrai grec
Ah
ancien.
oui, non, je ne savais pas du tout.
Donc c'est du vrai grec ancien et j'ai fait une recherche donc sur les paroles qui sont tout aussi sanglantes qu'on pourrait l'imaginer. C'est un chant qui parle exclusivement donc de vengeance, de attaquer, de colère, trahison, génocide, patricide, etc. Ce sont là les mots-clés qui sont répétés tout au long du morceau.
Et j'ai envie de dire que ce sont tous les thèmes du jeu.
Exactement. Donc c'est pour ça. Maintenant que je sais ça, je vais pouvoir chanter déjà à chaque fois qu'il y a la musique et me régaler encore plus. D'ailleurs, les thèmes de God of War changent un petit peu à chaque jeu. C'est pour ça que je choisis le 2 parce qu'il est un petit peu différent, c'est mon préféré. Mais les paroles aussi changent un petit peu et en fonction justement des thèmes du jeu. Puisque dans le 1, par exemple, on n'a pas le thème de trahison. Pas encore.
Oui, effectivement, oui.
Enfin, sauf à la fin. Mais.
Mais à la fin, évidemment. On va pas spoiler pour ceux qui auraient peut-être jamais fait les jeux. Je dis ça hein, parce qu'en fait, moi j'ai fait les jeux il y a pas longtemps, le numéro 1 et le numéro 2. J'ai profité des versions HD pour terminer le 1, faire le 2. Et là, j'ai commencé à entamer le 3 que j'ai pas terminé, mais du coup, j'évite de m'overdoser. Donc, je fais. Parce que ce sont des jeux qu'il faut apprécier, qui sont très très bons quand même, qui
Oui,
sont très très
excellent.
forts, et
Ils sont
que,
excellents
effectivement.
pour défouler les nerfs, mais qui peuvent aussi être méchants pour les nerfs si on joue à haute difficulté sur les dernières parties, hein, parce que ouh là là.
Ouais, mais j'ai pas voulu faire les trois pour éviter justement de saturer ce plaisir. Alors je sais pas, s'il fallait que je choisisse un des deux, je sais même pas lequel je choisirais vraiment. Parce qu'il y a des passages dans le 2 qui sont juste extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Mais on n'a plus cette découverte non plus, et cette découverte aussi du contexte et cette mise en place du contexte. Et on est
Oui.
content en même temps de trouver la suite dans le 2 et de savoir ce qui s'est passé, de comprendre ce qui se passe et d'arriver à la fin. Et quand on enchaîne, en fait, quand on fait la fin du 2 et qu'on enchaîne sur le début du 3, c'est juste monumental, quoi.
Mais c'est vrai que dans le 1, au final, quand le jeu est sorti, on avait vraiment cette découverte d'un personnage qui n'avait rien d'héroïque, qui était vraiment dans ses motivations. Dans tout, qui était vraiment complètement antipathique et c'était vraiment une bête sauvage. C'était plutôt original parce que dans les jeux américains, on a des brutes, mais des brutes souvent cœur d'or, qui sont aux ordres pour une grande cause, etc. Kratos, c'est un monstre hein, et de plus en plus au fur et à mesure des jeux. Tu demandais d'ailleurs quel jeu était donc le meilleur. T'as pas parlé du 3. J'en ai déjà parlé dans un Game Radio Co. Pour moi, le 3, c'est vraiment celui qui a sublimé l'art de la mise en scène qui est propre à la série et vraiment avec une variété, une violence toujours renouvelée, mais toujours délicieuse finalement, parce que c'est un de ces jeux où la violence vraiment, j'ai envie de dire, a raison d'être, elle fait partie intégrante de l'univers et elle est jouissive.
Moi, j'ai pas encore terminé le 3, du coup. Enfin, j'ai pas beaucoup avancé encore, mais après, selon les avis, selon ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'est vrai que il n'est pas évident. Il n'était pas forcément logique de dire que le 3 était le meilleur parce que c'est celui qui vient de sortir et qui est sorti sur PlayStation 3. Apparemment, une fois passé l'intro, mais bon, je suis pas allé assez loin encore pour en parler, mais. Mais bon, en tout cas, l'intro est juste monumentale, hein. Vraiment, vraiment monumentale. Enfin, les premières scènes sont déjà tombées par terre parce que graphiquement, c'est hallucinant.
Mais même hors du graphique, je te dis, c'est la mise en scène, vraiment, c'est les idées.
Oui, mais je pense que ça y fait. Je pense que dans la mise en scène de jeu, voilà un jeu qui est et peut-être Uncharted arrive à faire ça aussi.
Tout à fait.
Arrive à donc par les musiques, parce que les musiques ils font beaucoup. C'est normal, ça rythme énormément de jeu, mais par l'aspect graphique et par la maîtrise du moteur graphique, on arrive à mettre en scène des choses qui sont hallucinantes. C'est-à-dire que visuellement, vous en prenez plein la tronche, et c'est grâce à ce visuel que vous rentrez dedans. Faut pas oublier le gameplay qui est juste super bien léché et super efficace.
Et amélioré. Surtout que vous conservez les pouvoirs d'un jeu à l'autre. On n'est pas remis à zéro, et ça, c'est juste extraordinaire, c'est très rare.
Oui, enfin sur certaines parties, mais pas sur toutes effectivement. Mais ouais, en fait, on a une vraie suite. On a une vraie suite.
Vraie continuité.
Quand
voilà.
On termine le 1, on commence le 2, on a vraiment l'impression de continuer. Et du 2 au 3, c'est la même chose. Et ça, c'est assez exceptionnel, quoi. On a une vraie trilogie qui s'enchaîne.
Pour finir sur un petit bout de trivia à propos de Kratos. Dans le premier jeu, si vous finissez le jeu, vous aurez accès à des versions antérieures du personnage de Kratos, donc des concept art, etc. C'est très intéressant à voir. Donc, parce qu'il cherchait en fait à créer un personnage comme ça qui donne l'impression sauvage, de bête sauvage. Et donc ils se sont rendus compte déjà que plus ils le dénudaient, plus ils y arrivaient. Donc c'est pour ça que Kratos a seulement un pagne au final. Et surtout que ce qui leur a vraiment donné l'impression de sauvagerie, c'est très drôle, c'est de le rendre chauve. C'est en le rendant chauve qu'ils sont vraiment dit, voilà, on a la brute. Au départ, il n'était pas chauve, il portait un casque. Donc c'est intéressant, je trouve, de savoir connaître cette genèse du personnage et du chara-design.
Alors oui, et puis après, il y avait aussi tout l'aspect décoloration, enfin dépigmentation, ouais, de la peau, qu'ils ont réussi à, par une astuce du scénario, en fait. Ouais. Hein. Ouais, voilà. Et puis la couleur rouge aussi. Parce qu'à la base, il y avait plusieurs essais où il avait une couleur bleue, en fait, ouais, parce que du fait de ses origines, etc. Mais ils ont finalement passé le rouge, parce que le rouge, c'est la violence, hein. Il n'y a pas à discuter là-dessus.
Ok, donc on reprend sur un de tes choix à toi.
Ouais, effectivement, le prochain...
Ça clash, c'est très différent.
C'est effectivement très différent. Je mettrai un petit message perso pour Gus en disant « Tu vois, Gus, on n'a pas choisi que des musiques japonaises. » Et là, on passe sur un jeu qui est... Bon, de toute façon, on va parler peut-être un petit peu du jeu après. C'est le thème principal du jeu Alone in the Dark 5 en version a cappella. Donc, je vous laisse écouter et puis on reparle un peu de ça et du jeu un peu après.
Thank you.
Voilà, donc c'était la version a cappella du morceau Stoli, donc de tiré de la bande originale de Alone in the Dark 5, qui a été composé par Olivier de Rivière, qui est donc un compositeur français. Mm-hmm. Alors, j'ai envie de vous expliquer mon choix en vous disant que ce morceau, comment est-ce que j'ai découvert ce morceau ? Je vais vous raconter un peu ma vie et une petite histoire. J'ai découvert ce morceau comme un peu tout le monde en ayant vu les premiers trailers de Alone in the Dark 5. Et je suis littéralement tombé amoureux de cette bande-son et de ce morceau. J'ai eu un espèce de déclic, un vrai déclic. Ça m'a touché. J'adore ce style de musique, j'adore ce style de chant. J'adore les chorus comme ça, avec une espèce d'imprégnation de musique de musique du sud, de musique corse comme ça sur les chants.
C'est vulgaire.
Oui, ou bulgare aussi. Enfin, je veux dire, ça vient de. Enfin,
il y a. Oui, c'est ce que tu veux dire. Voilà. La sonorité, c'est ça, oui.
Voilà, c'est ça. Mais sur ce morceau, ça m'a vraiment, vraiment. En fait, je pense que c'est le morceau musical qui m'a fait faire le jeu.
Ah ouais, carrément.
Vraiment. Ouais, ouais. Je pense. Et je pense que c'est ce morceau qui m'a donné envie de dire oui, on va faire le thème sur les chœurs dans On Ludique. Après Alone in the Dark, alors non, j'ai pas fait le jeu que pour ça, mais je pense que c'est ce qui m'a vraiment vraiment donné envie. Les trailers étaient aussi vraiment alléchants, et au final, ce jeu, je pense qu'il m'aura marqué, même si c'est pas le jeu de l'année, ou ça a pas été le jeu du siècle, ou le jeu du militaire, mais c'est vraiment, c'est un jeu pour moi qui restera Alone in the Dark.
Grâce à la musique.
Et notamment grâce à plein d'autres choses. On peut parler un petit peu du jeu si tu veux, mais non, il y a pas que ça. Je pense pas qu'il y ait que ça.
Parce que je sais que ce jeu a déçu pas mal de gens, quand même.
Ouais, parce que les gens en attendaient énormément. Je pense qu'on leur a fait croire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de liberté, beaucoup de possibilités, un moteur physique vraiment top. Moi, je pense que c'est le cas, même s'il est pas toujours bien géré.
L'interface, notamment. L'interface est très, très originale, très bien implémentée, mais en fait, implémentée de façon très originale, mais pas toujours extrêmement efficace, justement.
Ouais, je pense que ça aurait pu être un peu mieux intégré au jeu, en fait. Alors, en fait, ce que vous avez de chouette dans Alone in the Dark, c'est que si vous avez, je sais pas moi, une bouteille d'alcool, un chiffon et un autre truc, vous allez pouvoir faire effectivement, voilà, vous allez pouvoir faire un cocktail Molotov, incendier un morceau de poutre qui va tomber sur un truc, sur un extincteur, qui va, enfin, voilà, il y a un moteur physique qui est là et qui donne la possibilité de casser différents objets, d'enflammer différents objets. Et du coup, c'est des fois mis au service du gameplay de l'aventure, et
souvent
assez bien intégré.
Ouais, c'est souvent pour décorer, en fait, plutôt.
Ouais. Et des fois, il y a des énigmes comme ça qui sont basées là-dessus, mais elles sont pas toujours bien implémentées parce que c'est difficile de trouver la solution alors que ça pourrait paraître logique. Le problème, c'est que si ça paraît trop logique, on peut pas faire marcher ces méninges et essayer de trouver l'énigme en gros qui est basée sur le moteur physique et le système d'assemblage des objets.
Rien à voir, mais ça me fait penser à Scribblenauts, ce que tu es en train de dire. C'est un jeu qui proposait beaucoup de liberté, et c'est pareil avec des énigmes qui devaient quand même être résolues d'une façon pas trop obvious. Enfin voilà, c'est un peu le même problème que le jeu a eu au final.
Il faut savoir que Alone in the Dark prend ses références aussi dans ce qui est une de mes références littéraires. C'est à la base les premiers épisodes, et je pense que celui-ci aussi trouve ses inspirations là-dedans. C'est l'œuvre de H.P. Lovecraft.
H.P. Lovecraft, j'allais dire. Mais c'est les jeux vidéo adorent Lovecraft, ils le remettent à toutes les sauces.
Et sur Alone in the Dark, on a je pense que dans cet épisode 5, il y a quand même ça qui est respecté. Il y a ce côté sombre, noir de l'indicible qui est finalement assez présent, je trouve. Beaucoup d'interrogations, on sait pas trop, on joue là-dessus. Finalement, moi, ça m'a bien plu, ça. Et puis surtout, ce qui m'a énormément énervé, c'est que dans cet épisode 5 de Alone in the Dark, il y a le système d'épisode qui a été repris par Alan Wake. Et tout le monde l'a découvert sur Alan Wake, qui est finalement... En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que Alan Wake, c'est un peu le Alone in the Dark, mais réussi. C'est un peu con, hein, mais mais c'est presque ça. Et au final, dans Alone in the Dark, on avait le Previously in Alone in the Dark, etc., et qui donnait un côté épisodique très sympa qu'on voit souvent dans les séries américaines, et qui a été repris par Alan Wake et que tout le monde aujourd'hui trouve génial, génial, mais tout le monde a oublié que dans Alone in the Dark, c'était déjà le cas. Et c'est ça qui m'embête un peu, parce que j'ai bien aimé le jeu, et franchement, il m'aura marqué comme d'autres jeux, hein, mais ouais, il m'aura marqué quand même.
Pour finir sur la musique, je peux te parler un petit peu de la traduction que je suis en train de découvrir. Ça parle principalement de la lune, qui effectivement est largement présente dans le jeu, hein, pour l'ambiance, pour le décor, etc. Donc il parle de la lumière de la lune qui soulage la peine de ceux qui se battent avec le démon, etc. Enfin, c'est assez ésotérique comme parole. Enfin, voilà. Mais la lune est le motif principal donc, de ce chant en bulgare.
Ah oui, il y a une grosse imprégnation fantastique hein, de toute façon sur The Dark. Hein. On enchaîne donc maintenant avec un de tes choix, Kalia.
Mon dernier déjà, ça va vite. Et donc on reprend un morceau japonais, n'en déplaise à notre grand Manitou.
Non, ça lui déplaît pas forcément, mais c'est vrai que c'est bien forcément d'avoir perdu des différents styles musicaux.
Tout à fait, donc là c'est un jeu tout à fait obscur.
Je pense qu'on va être obligé de faire un jingle jeu obscur de Kalia. toutes les émissions qu'on fait, que ce soit les Game Radio Enco, les Long Music ou autre, on a forcément le jeu obscur qui intervient à un moment donné.
C'est vrai.
Donc, ce serait pas mal qu'on ait un jingle. On va demander à Jarel de le faire, il est très fort en jingle.
Jarel. Oui, donc le morceau qui suit, c'est Tsugao Inochi no Koe. Ça veut dire en gros les voix duel de la vie. En gros. Et c'est un morceau de Hartone Nico, le premier du nom sur PS2. On écoute ça tout de suite. C'était donc Tsugao Inochi no Koe dans sa version AE, parce qu'il y a deux versions à cette musique, il y en a une beaucoup plus calme et celle-là donc qui est beaucoup plus rythmée, beaucoup plus baston. Ça a été donc composé par l'équipe de Ghost, donc qui est le studio qui a créé la série des Ateliers, pour laquelle ils sont particulièrement connus, et les chanteuses sont Haruka Shimotsuki et Akiko Shikata. On n'a pas de nom pour les cœurs masculins, pour une raison quelconque. Bref.
Ce qui est bien, c'est qu'avec tous ces noms japonais donnés à la suite, on a tout retenu. Je plaisante un peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude.
De toute façon, on mettra les liens sur le
oui, évidemment.
Mais donc que dire ? Alors déjà, oui, alors j'avoue tout de suite, Hartone Nico, c'est un jeu que je n'ai pas encore fait. Il est précieusement dans mon tiroir. Et donc c'est un jeu qui, évidemment, qui ne s'est jamais sorti autre part qu'au Japon, hein, on a l'habitude. Donc c'est une série de RPG assez obscure, c'est un univers fantastique où les chants, justement, sont très présents, puisque la... il existe une espèce humanoïde qui s'appelle les Revital, alors c'est impossible à prononcer, hein, qui sont donc des êtres, alors c'est que des femmes si j'ai bien compris, qui donc ont le pouvoir de lancer des sorts par le chant. Et donc les chants sont extrêmement présents à la musique du jeu, notamment les musiques de baston. Pour ça, ça intéresse, donc c'est du RPG assez classique, mais en fait qui a intégré des éléments d'autres genres. Arthur Helico, par exemple, est connu pour intégrer une sorte de jeu de drague, parce que justement à cause de ce principe des magiciennes qui sont que des femmes, vous avez donc dans votre équipe principalement des filles, vous jouez bien sûr un mec, hein, comme d'habitude, et donc vous pouvez développer vos relations avec les personnages, donc grâce à un module, une sorte de module jeu de drague à la japonaise. Donc c'est assez original. Je me demande bien ce que ça a donné. Donc c'est un peu l'originalité du jeu. Après, même ici, il a pas un succès fou, mais il est reconnu par les fans de RPG. Voilà, c'était pour présenter.
En tout cas, le morceau est très joli et vraiment vraiment sympa. Et c'est vrai que du coup, il a sa place dans une émission sur les chœurs, évidemment. Bon, on aura remarqué effectivement que c'est très. C'est pas sorti des frontières du Japon, mais ça s'entend. Hein. C'est quand même très typé, un peu asiatique, comme on disait tout à l'heure, avec. Des chœurs encore assez aigus, des voix de femmes assez, assez hautes et du piano avec un rythme derrière classique. Enfin, c'est très japonais, quoi. Bon. C'est très joli.
Oui. Mais mon gros regret, j'ai un regret sur ce morceau, c'est qu'on n'entend pas plus les chœurs masculins. Je sais pas si t'as entendu, il y a quelques chœurs masculins qui sont très beaux, mais qui sont seulement là en soutien, on les entend seulement à 2-3 moments.
Ouais, ils sont pas mis en avant du tout.
Et c'est vraiment, vraiment très très dommage. Alors c'est là dans le scénario du jeu, parce que c'est des femmes qui chantent dans le jeu pour lancer des sorts, mais c'est quand même très dommage. On les entend légèrement plus dans l'autre version de ce morceau, donc qui est beaucoup plus douce, mais vraiment à peine. Et c'est mon gros regret, parce que j'aime beaucoup quand les morceaux mélangent les deux. Parce qu'on a souvent soit des chœurs féminins, soit des chœurs masculins, les mélanges sont assez rares. Et là, je trouve que c'est dommage, ça aurait pu être bien d'avoir plus de chœurs masculins.
Alors, je sais pas si on l'a dit, mais effectivement, c'est sur un thème de Heroic Fantasy, le jeu. Et souvent, ça se prête, en tout cas les animés, parce que là, c'est quand même très basé sur... Sur de l'animé, comme la plupart des
RPG
japonais, quand même.
Oui, c'est assez classique.
Voilà, c'est assez classique. Et c'est pour ça que les chœurs et ce type musical est très souvent choisi pour les animés aussi sur l'Heroic Fantasy. On retrouve assez régulièrement ce type de morceaux.
Comme aucun de nous n'a fait le jeu, on ne peut pas en parler beaucoup plus que ça, donc je suppose qu'on passe directement à la suite.
Ouais, tout à fait. Et on passe maintenant. Alors, j'allais dire, on passe à la sélection des auditeurs. Oui et non, parce qu'en fait le dernier morceau que j'ai choisi, on se le garde pour la fin, en ending, on va dire.
Parce qu'il est plus long et il mérite effectivement d'être apprécié en finale.
On en parlera un petit peu avant, mais on vous laissera écouter ça à la fin.
Pour l'heure, donc, on passe effectivement aux sélections des auditeurs. On en a eu beaucoup, et il a fallu choisir. Donc encore une fois, toutes nos excuses à ceux qui n'ont pas été retenus. On a des gens qui ont proposé plusieurs morceaux aussi, donc merci à eux.
Ouais, merci à tous. On va pas citer tout le monde. On va citer ceux qui effectivement on a choisi. Pour les autres, oui, merci beaucoup. Et puis vous entendrez qu'évidemment pendant qu'on échange sur les morceaux en musique de fond, vous reconnaîtrez évidemment vos sélections.
Voilà, on a mis effectivement tous ceux que vous avez envoyés. On les a mis en musique de fond. Donc vous entendrez vos sélections passer quand même.
Voilà.
Donc on commence sur un morceau très très différent de ce qu'on a fait. J'ai absolument tenu à ce qu'on intègre ce morceau. Kalan était un peu moins chaud, je crois, parce que apparemment c'est pas des vrais chœurs.
On pourra en discuter après, on va écouter le morceau qui nous a été proposé par Chip Zanu. On écoute ça et puis on débat juste après. Let's go! Do
et voilà, je pense, un bruit qui parlera beaucoup à tous ceux qui ont fait le jeu. Donc vous aurez reconnu Super Mario Sunshine. C'était donc Platform The Plenty de Koji Kondo, évidemment, toujours sur les Mario. Et la musique de l'enfer, pour beaucoup de joueurs. Hein, une très belle musique, mais une musique qui rimait aussi avec mort, 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 remords, chute à mort, game over. Et donc ce cri horrible, puisque c'était la musique très originale, donc qui rythmait les morceaux de Super Mario Sunshine old school, c'est-à-dire sans le propulseur d'eau, donc sans ceinture de sécurité, si vous voulez. Donc quand vous tombiez à votre mort tout de suite, et ces niveaux ont, je pense, brisé plusieurs manettes.
Les vrais morceaux de jeu de plateforme du jeu, en tout cas.
Voilà.
Un jeu que j'ai beaucoup apprécié sur GameCube, j'ai trouvé ça sympa, là, l'île Delfino, tout ça, j'ai bien aimé me balader là-dedans, j'avoue, c'était très coloré, c'était très sympa, le système de pompe à eau, tout ça, là, moi j'ai bien aimé.
Moi aussi j'ai bien aimé.
Et du coup, saupoudrer ce jeu de petits morceaux de plateforme, il aurait presque failli en mettre un peu plus.
Moi, il y en avait assez à mon goût, merci. Ça suffisait.
Mais finalement, c'est bien de retrouver un peu cet esprit ancien Mario, plateforme pure. Un peu ce qu'on a dans Mario Galaxy, avec les capsules. C'est un peu le même esprit, en fait.
Oui, donc c'était un morceau qui a été proposé par Chip Zanuff et que je voulais absolument intégrer parce qu'il était vraiment très original, très différent de tout ce qu'on a mis jusque-là. Et surtout, ça a montré que les cœurs, c'était pas toujours synonyme d'épic, ça pouvait aussi être synonyme de choses beaucoup plus sympas, beaucoup plus légères comme ça. Effectivement, c'est pas des vrais cœurs, c'est des cœurs synthétiques.
Voilà, ce sont des cœurs. Enfin, c'est un morceau de cœur enregistré et synthétisé, en fait. C'est-à-dire que. On le met sous différentes gammes, sous différentes octaves, et on obtient la possibilité comme ça de composer avec un morceau de cœur préenregistré. Mais ça reste, c'est pas du chant en fait.
Ce serait difficile de chanter ça, je pense.
Difficile, pas tant que ça, parce qu'on peut trouver les musiques de Mario chantées par des chorales et a cappella, et ça rend aussi très très bien.
C'est vrai.
Alors, il y a un petit côté nostalgique, il y a un petit côté gamer qui fait que, comme on a l'habitude de l'entendre dans les jeux, on est content de retrouver une chorale qui chante, mais...
On a tous chanté ce morceau, on a tous fait pam, 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 pam. Là, j'ai très mal chanté, mais vous voyez l'idée, quoi. J'ai fait une façon affreuse, mais bon, bref, c'est pas grave.
Vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit morceau a cappella de Kalia.
Non, s'il
vous plaît.
C'est pas la peine. Attends, je me suis grillée à jamais en tant que gameuse. Genre, je connais pas la musique de Mario, mais non, je vous assure, je la connais. C'est juste parce que c'était l'impro au micro qui a foiré. Ouais. Bref. Non,
on parlait des chorales, et c'est vrai que très souvent, il y a plein de chorales qui ont repris les musiques de Nintendo. Et d'ailleurs, en faisant les différentes recherches, en essayant de trouver les différentes versions de musique pour cette émission, je me suis repris à un moment donné à écouter pas mal de morceaux de chorale, parce que j'aime bien ça. Mais c'est vrai qu'à cappella, en chœur, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment les musiques de Zelda, de ouais. Tetris, tout ça. Repris par certaines chorales qui sont très très rigolotes. Vous pouvez aller chercher sur YouTube, vous allez trouver pas mal de choses qui sont assez sympas.
Très, j'ai déjà entendu chanter à la bouche, c'est marrant. Pam, 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 pam,
voilà,
pam, pam,
ah, tu connais mieux la musique de Tetris que de Mario, c'est bien.
C'est juste que je suis déstressé là, c'est bon, je suis grillé, je peux y aller tranquille.
C'est très rigolo sur une des vidéos, ça n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui, mais sur une des vidéos où effectivement la chorale reprend le thème de Tetris, ceux qui ne chantent pas sont en train de faire les blocs qui descendent.
C'est humain.
C'est vraiment très, très rigolo.
Bref, donc passons à la deuxième proposition auditeur qu'on a retenue pour cet épisode de Ludique.
Alors, un jeune auditeur qui vient d'arriver sur Game Radio, qui s'inscrit depuis pas longtemps, là, très récemment, et qui a pris son courage à deux mains, qui nous a proposé un morceau.
Tout à fait, donc nous souhaitons la bienvenue à Gus.
Merci à toi, Gus, de nous avoir proposé ce morceau.
On y va. Rota. écouter un morceau de l'OST de Star Wars Republic Commando qui s'appelle Rage of the Shadow Warriors, qui a été composé par Jess Harlin et donc qui nous a été recommandé par notre grand Manitou, Gus.
Voilà, vous aviez tous compris qu'effectivement on parlait de Gus le chef, hein, de l'équipe, on va dire, le team leader, notre team leader.
Spécial dédicace à Gus, bisous bisous.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi ça m'embêtait un petit peu de choisir ce morceau. Et finalement, on l'a pris quand même. Mais Gus n'est pas vraiment un auditeur à proprement parler. Alors, c'est un auditeur, mais comme il fait aussi partie de la rédaction et qu'on n'a pas pu choisir, comme Gaz vous le disait tout à l'heure, on n'a pas pu choisir tout ce que vous nous avez proposé, même si ça nous fait toujours énormément plaisir que vous nous proposiez plein de choses, on est obligé de faire des choix. Et ce morceau, il est, enfin moi j'aime beaucoup ce morceau. Il est très différent des autres.
C'est pour ça qu'on l'a choisi. Cœurs,
voilà, on a des cœurs masculins très présents, une musique tribale très présente aussi. Mais c'est un jeu d'action, hein, Republic Commando. Voilà, et puis on connaît l'univers de Star Wars.
On n'a pas mis d'ailleurs le thème principal de Star Wars. On aurait pu, mais on s'est dit.
Un des thèmes principaux, parce qu'il y en a effectivement plusieurs. On est sur quand même deux trilogies. Je suis un grand fan, comme énormément de gens, un grand fan de la première heure.
Et de la musique surtout.
Et oui, évidemment, des différentes compositions, des versions orchestrales qui sont magnifiques et grandioses.
Et là, et donc, c'est pas le même compositeur. C'est donc Jess Harlin, qui n'a fait que ça, je crois.
Ouais, ça n'a rien à voir, et puis de toute façon, le n'a de rapport avec Star Wars que le nom sur ce thème.
Sur ce thème-là, oui. C'est chanté en une langue donc extraterrestre, une langue extraterrestre inventée évidemment pour le jeu. Et tu me disais aussi qu'il y avait un instrument particulier pour cette musique.
Alors, il y a un instrument qu'on n'entend pas beaucoup, mais qu'on entend là depuis le deuxième épisode d'Onde Ludique. On avait choisi un morceau avec cet instrument, c'est le didgeridoo. Du coup, on parlait un peu de cet instrument avec Kalia, qui ne connaît pas bien les origines et cet instrument. C'est que vous écouterez bien le didgeridoo qui est en fond pendant un moment, et avec des variations qui sont finalement des bruits de bouche, puisque le didgeridoo est un, pour vous expliquer un peu concrètement, c'est un grand tube de bois dans lequel on souffle très fort et on arrive à faire un espèce de bourdonnement avec une gamme assez particulière, et donc c'est les intonations qu'on arrive à donner avec la bouche qui font la musique. C'est c'est un instrument indigène australien.
Donc c'est l'espèce de bourdonnement sourd, grave que vous entendez derrière les paroles à certains moments, c'est ça.
Voilà. Qui est très souvent utilisé pour les musiques tribales. Bah là on en a un bel exemple avec beaucoup de percussions. Moi pour avoir été, je le suis encore un petit peu, mais beaucoup moins aujourd'hui, percussionniste, j'ai joué avec des joueurs régulièrement de didgeridoo, et c'est un instrument pour musique tribale et qui s'utilise vraiment avec beaucoup de percussions. Et c'est pour ça que dans un des morceaux de Onde Ludique numéro 2 sur le jazz, et donc c'était un des morceaux choisis de Machinarium, on avait du didgeridoo qui était déjà très original, et là avec des chœurs masculins comme ça,
c'est très chouette,
très impressionnant, très prenant, musique très profonde, vraiment chouette, vraiment très très joli morceau. Donc merci encore Gus de nous avoir proposé ça, parce que
je ne connaissais pas du tout, et vraiment merci.
On a écouté un peu le reste de l'OST, de l'original soundtrack de Republic Commando. Les autres morceaux sont très classiques, beaucoup plus classiques, toujours très bien construits, toujours très beau.
Celui-ci
était quand même très original, et voilà, prenez un peu à contre-pied tout ce qu'on avait passé jusqu'à maintenant.
Et d'ailleurs, ça nous fait une excellente transition, puisque je crois qu'il est venu le moment d'annoncer le thème de la semaine prochaine.
Tout à fait. Le prochain, on le dit, maintenant vous avez l'habitude, hein, on annonce le thème pour l'épisode prochain. Ce thème sera donc sur l'Afrique.
Voilà, le thème c'est Afrique, c'est toi qui l'as choisi. J'ai déjà toutes mes idées, personnellement. Pourtant, c'est assez difficile.
Oui, parce que finalement, le thème de l'Afrique n'est pas très souvent choisi dans les jeux vidéo, en fait.
Ou de façon plutôt cliché. Donc justement, on va essayer de vous faire quelque chose de pas cliché. Vous aurez évidemment la musique tribale, mais aussi des choses très différentes. On va essayer de vous faire quelque chose qui reflète un peu la complexité de l'Afrique, quand même.
Voilà. Fait. Et sa grandeur, parce que c'est quand même un des continents du monde, et avec qui est très présent partout, et finalement dans le jeu vidéo
pas assez,
pas beaucoup et pas assez, ouais.
Donc si on vous annonce ce thème à l'avance, évidemment c'est pour que vous puissiez nous donner vos suggestions dans les commentaires ou en nous envoyant des mails, si vous ne voulez pas gâcher la surprise, que vous utilisez tout simplement le formulaire de contact des animateurs que vous trouvez sur le site, et vous nous expliquez tout simplement un mail à moi ou à Kalan ou à nous deux, avec vos suggestions pour le thème Afrique. Pour la semaine prochaine, on choisira nos préférés, les plus différents, ceux qu'on ne connaissait pas, etc., pour le faire découvrir.
Et comme d'habitude, on mettra aussi nos adresses mail dans l'article qui va avec, avec cette émission pour que vous puissiez nous envoyer le mail tranquillement.
Donc on arrive déjà à la fin avec donc le morceau que nous avons gardé au show pour la fin, le tien.
C'est un morceau qui est assez original aussi et qui est différent de ce qu'on a passé jusqu'à maintenant parce qu'il a plusieurs composantes. Donc il y a effectivement les chœurs, évidemment, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et c'est aussi un morceau très rythmé. Et c'est un morceau très... Heureusement d'ailleurs que c'est un morceau très rythmé parce que c'est un morceau tiré du jeu Blaze Blue et qui est le thème de, du personnage V13. Vous allez voir que c'est très prenant. Les musiques font aussi partie de l'originalité du jeu qui est un jeu de combat en 2D. Alors ce sont les créateurs de Guilty Gear qui ont fait Blaze Blue et qui est un jeu de combat, qui est un super jeu de combat. Voilà, c'est un super super jeu de combat. Il est très complexe. Il est très complet, très profond. Il faut énormément de temps pour réussir à maîtriser un personnage. Voilà, avec des règles de garde, de contre-garde, de casse-garde, de mais les voilà les short jump, long jump, les cancel jump, les cancel move, etc. Ça, c'est un.
Tu fais les auditeurs, hein, Kalam.
Oui, non, mais c'est que pour ceux qui aiment les jeux de baston, Blaze Blue c'est juste un incontournable parce qu'il est vraiment, super. Il est magnifique, magnifique, de chez magnifique. Les arènes, en fait, sont des décors qui sont en 2D, 3D, qui sont sublimes, franchement, pour la plupart. Et du coup, le thème de V13, qui est en fait... c'est assez complexe, V13, c'est un personnage féminin, mais à moitié robotique, à moitié sacré, en fait, à moitié pas forcément biblique, mais il y a une espèce d'empreinte de Dieu dans ce personnage. Et je pense que c'est pour ça que c'est ce qui justifie aussi la présence des chœurs, et c'est ce qui amène aussi ce côté angélique un peu au personnage. Et bon, on va vous laisser là-dessus, parce que c'est quand même assez rythmé, enfin, et assez sympa au final. Hein. Puis ça change un peu, les thèmes des jeux de baston n'ont pas souvent cette originalité-là.
Dans Guilty Gear, comme tu dis que c'est les créateurs de Guilty Gear, ça m'a pas étonné, parce que les Guilty Gear sont aussi connus pour des musiques extraordinaires et très particulières. Donc effectivement, là, on va vous laisser sur cette longue musique qui dure 5 minutes. Régalez-vous. Et nous, on va vous souhaiter bon jeu et à la semaine prochaine.
Oui, merci à tous de nous avoir écoutés, puis on se donne rendez-vous aussi pour la prochaine émission, on le dit. Merci Galia, à bientôt.
Salut.
Game Radio.